Sud Radio, parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency.
Et il est de retour, comme tous les samedis, normalement, votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec le fondateur de Radio Immo. Comment ça va, Sylvain Lévy?
Et ça va, Jean-Marie, je suis très heureux de vous retrouver. Ben bonjour aussi. À toutes et à tous.
Bienvenue, welcome back, si j'ose dire. Nous espérons que les vacances furent bonnes pour vous. Au programme aujourd'hui, toute l'actualité du logement, notamment.
Comme vous le savez, on parle vrai, on parle donc immobilier. Mmh. On va parler justement, faire un focus, si vous voulez bien, Jean-Marie, sur la santé. Ah. Vous savez, comme quoi l'immeuble, les murs sont facteurs ou de dégradation ou d'amélioration de la santé publique.
On peut être malade chez soi à cause de son chez-soi.
Absolument, exactement. Et ça, c'est nouveau. Je peux vous dire qu'on a des professionnels, justement, sur le plateau. On va recevoir tout à l'heure le porte-parole de Murprotec, Edouard David, responsable de l'engagement social, pour évoquer cette question cruciale pour les Français.
Exactement. On va parler aussi des questions que nous posent nos auditeurs sur le répondeur de Sud Radio 0826 300 300. Au programme aujourd'hui.
Absolument. Comme toutes les semaines, on nous appelle et on nous pose des questions. Cette fois-ci, on va parler d'un procédé, c'est les lettres de motivation à leur potentiel locataire. Vous savez, les propriétaires demandent comme un job, vous savez, vous postulez et vous demandez.
Non, mais si ça continue, il faudra faire l'annonce du ventre.
Bon, c'est illégal.
Mais justement, vous nous expliquerez ça avec vos invités. On terminera par un tour de France des biens achetés. Où est-ce qu'on va aujourd'hui?
Alors, on va faire le tour de France cette année. On va aller du nord au sud. Alors, j'ai pas exactement les destinations là sous
c'est
les yeux.
C'est pas grave, vous les trouverez. Vous avez le temps de regarder sur votre carte.
A déjà fait le tour.
C'est parfait. Allez, tout de suite, c'est parti jusqu'à 10h. Commençons par les infos de la semaine à retenir. C'est avec Grégoire Daricot. Bonjour à vous, Grégoire.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous.
Sylvain Lévy.
On va parler fiscalité. Fiscalité d'abord. On va dire que là, pour le sens, c'est bis repetita qui n'en finit plus d'augmenter.
Oui, c'est la taxe foncière, Sylvain. Plus 32,9%. C'est la hausse moyenne constatée de la taxe foncière entre 2013 et 2023 sur tout le territoire français, d'après l'Union nationale des propriétaires, l'UNPI. Et plus 4,9%, c'est la hausse constatée pour cette seule année 2024. Rien qu'en 5 ans, ce sont 20% de hausse moyenne qui ont été constatées. Une série haussière qui est vertigineuse, qui n'en peut plus de peser lourd sur le budget des propriétaires. Pour les Parisiens, par exemple, ce sont 83% de hausse constatée entre 2013 et 2023.
Alors les Français se posent la question de comment on explique cette hausse.
Alors déjà, le calcul de la taxe foncière, Sylvain, c'est cet impôt local que vous devez payer si vous êtes propriétaire. Il est assez simple, il est calculé en fonction de la valeur locative du logement, c'est-à-dire le niveau de loyer annuel théorique que le logement pourrait produire s'il était loué. Puis lui est appliqué un pourcentage d'imposition voté par les collectivités locales. L'avis d'imposition, il est envoyé une fois par an. Alors cette hausse, elle s'explique de plusieurs manières. D'abord par l'inflation et donc la hausse du calcul des valeurs locatives. Ensuite par le choix de plusieurs municipalités d'accentuer la pression fiscale en relevant leurs taux. Un système que l'UNPI trouve injuste. L'Union propose ainsi de refondre tout le système pour éviter les trop grandes disparités entre les communes.
On rappelle que l'UNPI, c'est l'Union nationale de la propriété immobilière.
Non, les propriétaires immobiliers.
Voilà. Les propriétaires immobiliers, tout à fait.
Pardonnez-moi, mon cher.
Vous êtes pardonné.
Alors, politique maintenant, politique, puisque tout est politique dans le logement, bien évidemment, vous nous proposez un récapitulatif des modifications de changements à prévoir en immobilier, et notamment le projet de PLF qui a été présenté la semaine dernière.
Bah oui, Sylvain, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé cette semaine des projets du gouvernement, des propositions des uns et des autres, et alors que les débats font rage autour du projet de loi de finances, j'ai décidé de vous proposer un petit récapitulatif de ce qui nous attend vraisemblablement. Ce qui est sûr et certain, Sylvain, c'est que l'heure est à l'économie. Le Premier ministre nous l'avait martelé, les finances du pays sont dans un état catastrophique. Il faut donc trouver de l'argent et malheureusement, l'immobilier ne fait pas exception à la règle. Une bonne nouvelle quand même, c'est l'extension du PTZ à tout le territoire et à tous pour 2025.
Le prêt à taux zéro,
pardon Jean-Marie.
Qui, je le rappelle, gouvernement existait dans les mêmes contours en 2023.
Oui, voilà. Alors si vous me spoilez la suite de ma chronique, Sylvain, ça va pas le faire, parce que le gouvernement souhaite effectivement faciliter l'accession à la propriété des primo-accédants et décide donc d'élargir le prêt à taux zéro, dont il prend en charge les intérêts lorsque vous y souscrivez, un retour en arrière, effectivement, comme vous l'avez dit, à la forme précédente du prêt à taux zéro, qui est bienvenue quand même, alors que celui-ci avait été restreint aux seules zones tendues. En 2025, l'investissement locatif Pinel disparaîtra bel et bien, même s'il pourrait être brièvement prolongé jusqu'en mars 2025 si la signature de l'acte authentique chez le notaire est signée avant le 31 mars au plus tard. Alors pour rappel, le Pinel ouvrait droit à une réduction d'impôt sur le prix d'achat d'un logement mis en location sous condition. Et avec l'extinction du Pinel, il n'y aura en tout cas plus aucun dispositif d'investissement locatif dans le neuf. La location meublée aussi, elle est dans le collimateur du gouvernement qui souhaite revoir son régime fiscal. Pour le gouvernement, le dispositif actuel encourage les investisseurs à privilégier les locations de courte durée, ce qui accroît la pression locative dans les zones tendues. Ce dispositif permet actuellement de déduire des revenus locatifs les dépenses amortissables qui viennent augmenter la valeur du logement, comme les travaux, l'achat de mobilier, la rénovation, etc. Et le gouvernement souhaite revenir dessus. Et enfin, le calendrier lié au diagnostic de performance énergétique, le DPE, et l'interdiction à la location des passoires énergétiques, à commencer par les logements étiquetés G au 1er janvier 2025, le calendrier qui serait assoupli.
Alors oui, on va attendre avec
pour
beaucoup
les
de vigilance.
Notamment, oui, c'est ce qu'ils expliquaient.
Voilà, copropriété dans laquelle il y a beaucoup de passoires. Je rappelle que c'est un tiers hein, des passoires thermiques en étiquette G, donc c'est quand même catastrophique. Grégoire, on va terminer par une question importante. On a vu que les taux baissent. Est-ce que ça serait pas le bon moment pour renégocier son prêt immobilier?
Alors, en fait, on se pose cette question alors qu'une nouvelle baisse est attendue de la part de la Banque Centrale Européenne dans les prochains jours. On a aujourd'hui des prêts qui se négocient pas loin des 3% sur 25 ans. Une baisse significative quand on se souvient des prêts à la fin 2023 qui avaient allègrement dépassé les 4% de taux d'intérêt. Ce qui est bien avec des taux d'un tel niveau, c'est que l'on peut arriver avec un apport plus petit. Il était conseillé à plus de 20%, mais avec la baisse des taux conjuguée à la baisse des prix, les banques font un effort, même si un apport élevé peut vous aider à obtenir des conditions plus avantageuses. Mais bon, la question que beaucoup se posent, c'est n'est-ce pas le bon moment pour renégocier son prêt immobilier, surtout si vous l'avez souscrit à un taux supérieur à 4%? Eh bien, pas encore. Pourquoi? Parce que pour renégocier son prêt, on conseille deux conditions. La première, c'est qu'il y ait au moins 0,7 point d'écart entre le crédit souscrit et le nouveau, une condition qui peut être remplie en ce moment. Mais la seconde, c'est une durée de 2 années d'amortissement avant renégociation. Donc, il est encore un petit peu trop tôt, mais préparez-vous à agir, surtout que les taux sont loin d'avoir atteint un niveau plancher.
Bon, bah écoutez, on verra tout ça, on garde le rendez-vous. Merci beaucoup. Restez avec nous, Sylvain Lévy-Valency. On parle de quoi dans un instant? L'humidité des murs,
par exemple. On va parler de l'humidité des murs et comment finalement ces murs sont facteurs soit de dégradation, soit d'amélioration du confort de l'habitat.
Si vous n'entretenez pas votre logement, vous pouvez tomber malade. C'est ce que nous expliquera votre invité. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons immo. Sylvain Lévy-Valency.
Jusqu'à 10h, votre rendez-vous 100% logement, 100% immobilier avec Sylvain Lévy-Valency et son invité.
Merci Jean-Marie. Bonjour Édouard David.
Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable engagement social, sociétal chez Mirprotec. Merci de répondre à nos questions. Vous avez récemment publié une étude extrêmement intéressante et que je recommande à tous sur la santé et l'habitation.
En effet.
Ça s'appelle quelque chose dont on a l'habitude de lire, et on voit, c'est assez éloquent, comment vous finalement vous mettez en relief les difficultés que peuvent avoir sur la santé les bâtiments. Vous l'avez fait en partenariat avec Respilab. Alors, première question plus générale, quels états des lieux, quel point vous pouvez nous faire sur la population intérieur en France. Intérieur, j'entends à l'intérieur des bâtiments, c'est-à-dire dans les maisons, dans les appartements.
Les espaces clos, en effet. Eh bien, en préambule, moi, je vais vous faire part d'une donnée importante hein, pour que vous ayez une bonne compréhension de ce que je vais évoquer avec vous après. C'est que l'air intérieur est 5 à 9 fois plus pollué que l'air extérieur. Et que les Français passent en moyenne 80% de leur temps dans des espaces clos. Et ça, c'est l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs qui le dit. 5 à 9 fois plus pollué.
C'est énorme.
En effet, c'est bien trop en tout cas. Hein. C'est bien trop. Et si on doit faire un état des lieux de la pollution de l'air intérieur, eh bien sachez qu'elle est responsable en France de 20 000 décès prématurés et de 28 000 nouveaux cas de maladies respiratoires chaque année.
Sur l'air intérieur. Facteur de l'air intérieur pollué. Facteur d'accroissement de la mortalité.
Exactement.
Incroyable.
C'est un véritable fléau aujourd'hui.
Mais les Français s'en rendent pas vraiment compte.
Non.
Vous me parlez d'air intérieur, je vous dis l'air intérieur, air extérieur. J'ai pas conscience de ça. Vous le sentez chez les personnes qui occupent leurs appartements, leurs maisons?
On le sent pas et c'est malheureusement un constat qu'on fait parce que c'est contre-intuitif à un moment donné de penser que le danger vienne de l'intérieur, si vous voulez.
C'est vrai, c'est contradictoire.
S'il y a bien un endroit où on se sent en sécurité chez soi, c'est la maison.
Et oui, la maison protectrice.
Exactement.
Absolument.
Donc c'est pour ça que ces données sont un peu inquiétantes, en effet.
Rappelez-nous comment vous avez, sur la méthodologie de l'enquête, et vous allez voir, les Français sont vraiment très intéressés par ça. C'est quoi le plan de réflexion du départ de la méthodologie que vous avez mis en œuvre?
Alors cette enquête, elle a été menée, comme vous l'avez expliqué, au travers du Respilab, de l'association Santé Respiratoire France. Et parce que ça représentait un vrai terrain d'enquête aujourd'hui pour nous. Et nous avons pu interroger des malades respiratoires ainsi que leurs aidants. pour justement en savoir davantage sur leur perception à eux quant à la qualité de l'air intérieur. Donc on a eu 310 participants, si vous voulez, à cette enquête qui a été administrée en juillet.
Qui étaient des personnes malades ?
Et voilà, donc 90% des personnes qui ont répondu aujourd'hui à cette enquête sont des malades respiratoires. Pour le reste, ce sont ce qu'on appelle des aidants.
Est-ce que la cause, elle est liée directement à l'air intérieur ? Vous l'avez identifié, ça ?
On l'a identifié. Ce qu'on a identifié aujourd'hui, c'est qu'il y a une surreprésentation chez les malades respiratoires de problèmes d'humidité. Je vous parle d'humidité parce que l'humidité est un facteur, est un polluant de l'air intérieur aujourd'hui. Parce que l'humidité va développer, notamment, va favoriser le développement de moisissures qu'on retrouve dans plus de 37% des logements en France.
Waouh !
37% des logements en France.
Logement individuel et collectif ?
Tout confondu aujourd'hui.
Il y a de la moisissure dans un logement sur trois.
C'est ça. Des traces visibles et invisibles.
Alors justement, alors traces visibles, effectivement, on a des moisissures qui sont apparentes.
C'est ça.
C'est quoi les traces invisibles, Edouard David ?
Alors c'est tout simplement des traces qui ne se verraient pas forcément à l'œil nu, mais on retrouve dans les logements des spores aujourd'hui qui ne sont pas identifiables, en tout cas à l'œil nu, mais des spores de moisissures qui sont justement dans l'air intérieur.
Alors justement, quelles sont les solutions ? Parce que je peux vous dire qu'on vous écoute avec beaucoup de silence. Quelles sont les solutions pour justement essayer de pallier à ça?
Alors, il y a...
Est-ce que la mérule, par exemple, ça fait partie de ça?
Alors la mérule, c'est aujourd'hui, c'est quelque chose qui est notamment favorisé par un milieu humide, en tout cas un milieu sombre, un milieu humide, un milieu qui n'est pas ventilé. En effet, ça, c'est ce qu'on appelle le cocktail idéal pour que la mérule se développe, en tout cas dans les habitations.
Le grenier ou la cave, on rappelle ce que c'est un champignon ravageur qui fait l'effet d'une termite sur vos poutres et votre plancher. Une fois que c'est là, c'est difficile à désinfester.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est aussi un facteur de dégradation, également grâce à cause de l'humidité. Est-ce que l'humidité est cause de tout cela ?
Alors, en effet. Alors, vous parliez des solutions. Aujourd'hui, vous parliez des solutions. Donc, il y a une première solution aujourd'hui qui est accessible à l'ensemble des Français, qui est celle de ventiler naturellement son logement en créant un courant d'air, c'est-à-dire en ouvrant deux fenêtres. L'objectif, c'est de faire circuler l'air et de l'évacuer au minimum deux fois par jour pendant 10 minutes, été comme hiver.
Ah oui. Mais alors, quand les Français se calfeutrent à cause du froid, par exemple, vous savez, le boudin devant la porte pour pas que l'air passe. En fait, ce qu'il faudrait, c'est d'étalonner la porte pour laisser passer l'air, quoi.
Exactement, c'est d'étalonner, il faut pas obstruer aujourd'hui les grilles d'aération.
Donc les gestes que nous avons sont des gestes qui sont pires que
vous nous demandez en gros de partager l'humidité dans tout le logement au lieu de la restreindre à une seule pièce. Ah. Parce que c'est un peu de ça quand c'est vrai.
Non, mais...
Après, si on se protège de la cave, c'est aussi pour pas avoir le froid qui vient de la cave ou alors l'humidité qui peut venir éventuellement de la cave. Donc c'est contre-intuitif.
Non, alors le fait de détalonner, le fait de ne pas obstruer justement ces grilles d'aération, ça va faire circuler l'air dans le logement.
D'accord.
Et l'objectif, c'est d'évacuer l'air qui peut être vicié. Donc ne pas la laisser emprisonné dans une pièce, mais bien la faire circuler.
Donc,
pour l'évacuer.
Même si c'est contre-intuitif, en fait, c'est très utile parce que ça supprime l'humidité, c'est ça ?
Exactement.
Alors, une question, la VMC, c'est pas ça le but de la VMC, la ventilation mécanique contrôlée, de justement activer l'air ?
Alors, la VMC, aujourd'hui, c'est un aspirateur, si vous voulez, qu'on place dans les pièces d'eau, qui a pour objectif, justement, d'évacuer, à un moment donné, en tout cas, cet air qui serait pollué, cet air vicié, justement. Malheureusement, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que les VMC ne sont pas suffisantes pour renouveler, en tout cas, l'air intérieur. Donc, c'est pour ça que, on parle aujourd'hui de système de traitement de l'air, on parle de mécanisme d'insufflation. L'objectif, c'est de, justement, insuffler un air sain, un air préchauffé, justement, à l'intérieur du logement.
Comment?
Qui va servir de piston, tout simplement, et qui va justement pousser l'air vicié à l'extérieur du logement.
À l'heure où on parle de rénovation énergétique, de raccordement à des réseaux de chaleur, d'installation d'une pompe à chaleur, vous savez, RO ou RR, etc. Est-ce que tout ça participe d'une amélioration du confort de l'habitat, d'Edouard David ?
Alors malheureusement, aujourd'hui, cette politique de l'isolation, malheureusement, n'est rien d'autre qu'un facteur aggravant pour les logements, justement, qui seraient dépourvus de systèmes de ventilation, bien calibrés, je dirais, qui soient suffisants pour justement renouveler un air intérieur. Aujourd'hui, on emprisonne, on parle d'effet Kawai, justement, on parle de cocotte minute, c'est-à-dire qu'on emprisonne tout à l'intérieur du logement. en pratiquant cette politique de la surisolation, justement.
Parce que ça, du coup, la condensation, on avait fait une étude, effectivement, oui. à Radio Immo, on voyait que les effets de la condensation sur les maladies cardio-respiratoires.
Oui.
On est en plein dedans. Donc finalement, quand on aborde la question de la rénovation énergétique, on devrait injecter très fortement la qualité de l'air intérieur.
En tout cas, il faut prendre en compte aujourd'hui cet aspect ventilation, puisque, en effet, il est juste crucial aujourd'hui d'adopter le bon geste pour justement se prémunir de ces dangers-là.
Question, sans ambiguïté, sans tabou, les pouvoirs publics sont-ils emparés ou pas ? Est-ce qu'il y a une conscience de la part de l'exécutif, du gouvernement, des instances, des organisateurs de la fabrique de la ville, par exemple, des grandes organisations, sur le sujet aujourd'hui ?
Alors, on peut voir que c'est déjà le cas sur le plan législatif, puisque nous avons depuis 2012, justement, un étiquetage obligatoire, si vous voulez, des produits de construction, de décoration notamment, au regard de l'émission des composés organiques volatiles, hein, qui sont des polluants qu'on retrouve justement à l'intérieur des logements.
Volatiles, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ce sont des composants aujourd'hui qui restent en suspens, si vous voulez, dans l'air aujourd'hui et que l'on respire et qui peuvent avoir justement des effets dévastateurs sur le système de santé respiratoire.
Et ça peut même aussi provoquer des cancers,
provoquer des cancers, justement, ça peut exacerber des problèmes aujourd'hui cardiovasculaires.
Pour les enfants, les personnes âgées fragiles.
Exactement, ces personnes-là qui sont plus vulnérables par leur respiration, justement. Donc c'est en effet dangereux. Mais aujourd'hui, le principal, si vous voulez, le principal souci qui a été révélé par l'enquête, notamment qu'on a administré, et comme de nombreuses enquêtes, on peut voir que c'est l'information. C'est l'information puisque on fait face à une ignorance des risques et notamment du fait que l'air intérieur puisse être plus pollué que l'air extérieur. On voit bien que les gens ne sont pas conscients de ça aujourd'hui. Et donc tout le problème est cette information qu'ils n'ont pas. Donc s'emparer du sujet aujourd'hui, c'est mettre en place justement des campagnes d'information.
C'est ce que vous avez fait d'ailleurs, je crois, vous avez lancé une campagne qui s'appelle Programme Maison Saine. Pour constituer justement, essayer de constituer une base et donner de l'information au grand public, c'est bien ça ?
En effet, en tant que société experte du diagnostic et du traitement de l'humidité et de l'air intérieur, nous avons créé le programme Maison Saine, qui est une action issue de notre pôle d'engagement sociétal. C'est un programme de sensibilisation qui a pour mission d'être vecteur d'information et de prévention des risques de l'habitat sur la santé.
Auprès du grand public.
Exactement. Et d'ailleurs, une des actions concrètes aujourd'hui de ce programme, c'est justement la mobilisation des 30 000 ménages bénéficiaires chaque année du diagnostic gratuit Murprotec, afin qu'ils deviennent des ambassadeurs de la Maison Saine.
C'est gratuit.
Exactement, les diagnostics gratuits.
Donc, est-ce qu'on peut dire à tous ces et ceux qui nous écoutent qu'ils pourraient faire un diagnostic Maison Saine finalement
avec Murprotec.
Murprotec gratuitement.
Exactement.
D'accord. Ça coûte combien un diagnostic
En général, un diagnostic c'est de l'ordre de 350 €.
Alors, faut pas hésiter.
On va
sur le site de Murprotec.
Exactement.
Hein, vous confirmez J'y vais, c'est gratuit.
Vous y allez, c'est gratuit.
D'accord, voilà, je vous lance les amis. Vous avez une maison, un appartement, allez chez Murprotec. Alors justement, cette information-là, elle est consommée par les personnes. On a toutes les informations sur votre site internet. Merci beaucoup, Edouard David. Je rappelle que vous êtes responsable engagement sociétal et aussi social chez Murprotec. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci Sylvain.
Et on va prendre une loupe et on va regarder nos murs maintenant. Hein.
Absolument.
Vous allez nous faire un petit bilan, Sylvain Lévy. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. Vous avez laissé beaucoup de messages sur le répondeur Sud Radio cette semaine, chers amis. On va répondre à quoi dans un instant, Sylvain ?
On va répondre aux lettres de motivation. En fait, vous avez des propriétaires qui demandent des lettres de motivation. Alors, le futur
locataire.
Est-ce
que c'est légal ou pas ? Quels sont les recours ?
On verra ça dans un instant. Répondre.
Sud Radio, parlons immo. Sylvain Lévy-Valency.
Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Sylvain Lévy-Valency. Tiens, dans quelques minutes, on va faire le tour de France des biens coup de cœur à acheter. Vous nous direz d'ailleurs dans quelle destination on se rendra, mon cher Sylvain. Mais avant ça, on écoute le répondeur.
Sud Radio, parlons immo, ça vous concerne.
Enfin, on a écouté le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300. Beaucoup de questions qui nous ont été posées cette semaine, Sylvain.
Absolument. Cette semaine, Grégoire a reçu un message sur le répondeur de Sud Radio. Un message de Geoffrey, 36
oui,
ans.
Oui, tout à fait. Geoffrey, il est marié, père d'un enfant. Il souhaite louer un plus grand appartement que celui qu'il habite actuellement. Jusque-là, rien d'anormal. Mais parmi la montagne de pièces justificatives que lui a demandé son probable futur propriétaire, Geoffrey a eu la surprise de constater la présence d'une lettre de motivation. Alors il nous a posé la question suivante, est-ce que c'est normal d'avoir cette demande-là ? Et pour répondre à cette question, j'ai demandé à notre avocat préféré ce qu'il en était, et on a maître Romain Rossilandi qui a accepté d'être des nôtres. Bonjour maître.
Oui, bonjour.
Et bienvenue sur Sud Radio.
Merci.
Alors, Maître, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que c'est un procédé que vous observez de plus en plus et partout en France ?
Effectivement, j'en entends beaucoup parler maintenant de ces lettres de motivation là qui sont exigées par certains bailleurs. Alors, surtout, à ma connaissance, en zone tendue, hein, donc évidemment Paris et la région parisienne, où certains bailleurs n'hésitent pas effectivement à solliciter des candidats locataires une lettre de motivation.
Alors, est-ce que c'est légal ?
Alors absolument pas. C'est important quand même de le rappeler. Il faut savoir qu'il existe un décret de 2015 qui liste précisément la liste des justificatifs qui pourraient être demandés aux futurs locataires. Et cette liste, elle est limitative. Exemple, les trois derniers bulletins de salaire, ça, on a le droit de le demander. Il y a toute une liste, il y a les avis d'imposition, etc. Mais il n'y a pas la lettre de motivation. Et donc, s'il n'y a pas de lettre de motivation, c'est que c'est illégal. On doit s'en tenir au décret et à la liste précise du décret.
Et donc, le propriétaire s'expose à des sanctions si jamais il demande une lettre de motivation ?
Alors oui, parce que si vous exigez un document qui n'est pas dans la fameuse liste, il y a une amende administrative qui est encourue, qui peut aller jusqu'à 3 000 euros pour les particuliers, jusqu'à 15 000 euros pour les sociétés civiles. Donc c'est pas négligeable, mais surtout aussi ce que je constate, c'est qu'il y a certains propriétaires qui disent ah mais moi avec une lettre de motivation, je vais voir si les gens s'expriment bien, etc. S'ils écrivent bien le français, s'ils font pas de fautes d'orthographe.
Ouais, c'est discriminatoire.
Et là derrière, bien sûr, c'est ça le risque, c'est que ça peut être considéré comme une discrimination au logement. Et là on rigole plus du tout, c'est pas 3 000 euros d'amende, ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
En théorie, sauf que dans les faits, en fait, ce genre de poursuite, ça n'arrive jamais. Bah parce que d'abord, le locataire, il a déjà tellement de rendez-vous où il doit faire la queue pour essayer d'obtenir une visite, rien qu'une visite, qu'il a autre chose à faire que d'engager des poursuites. Mais un jour, on va faire une dictée des propriétaires, juste pour s'amuser quand même. Parce que c'est quand même. Pour qui se prennent ces gens, quoi? Non, mais franchement.
Bravo, Jean-Marie.
Après, ce qu'on peut dire quand même, c'est que certains locataires, si eux, ils veulent. Sans que le propriétaire le demande, mais montrer un peu leur différence, c'est pas interdit pour le locataire de le faire.
Bien élevé.
Et voilà, je suis bien élevé, regardez, moi je vais bien m'occuper de l'appartement, etc.
On le faisait plutôt dans le mail qui accompagnait les pièces justificatives, on expliquait un petit peu sa situation, et puis on montrait pas de blanche au propriétaire, mais de là à faire une lettre de motivation.
Non mais là, on est dans le n'importe quoi, il a raison Jean-Marie. Pour qui se prennent-ils? C'est incroyable. Maître, l'inflation justement de ce type de demande discriminatoire, elle est liée au manque cruel de logement, on est d'accord ?
Ah bah évidemment, vous le savez bien, on en parle assez souvent. Mmh. Donc il y a certains bailleurs, on pourrait parler d'autre chose. Maintenant, les bailleurs, ils exigent certains, un peu scrupuleux, plutôt que de signer un bail loi de 89, ils vont faire quoi ? Ils vont signer un bail civil, en trichant un peu, pour essayer d'éviter... Moi je le vois beaucoup dans des dossiers, alors on en reparlera, ça sera peut-être...
Maître, vous pouvez rappeler à nos auditeurs, oui. Tous ceux qui vous écoutent, c'est quoi la différence entre un bail civil et un bail de 89 ?
Alors, un bail loi de 89, c'est un bail d'habitation qui est soumis, qui est d'ordre public à la loi de 89, qui protège les intérêts du locataire. Il y a une durée minimum, alors 1 an pour les meublés, 3 ans pour les locations vides. Il y a des règles de préavis respectées et surtout, le bailleur ne peut pas mettre fin au bail sans donner congé. Et le congé peut être motivé soit par la reprise du logement pour y habiter, soit par la vente. C'est tout. Dans un bail civil, c'est la liberté totale. Le bail prend fin automatiquement sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Et donc le bailleur n'a pas besoin de dire pourquoi il veut reprendre le logement. Donc c'est beaucoup moins...
La durée du bail civil,
elle est libre. On peut faire 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans.
Donc le législateur a mis en place deux baux, un bail civil et un bail loi de 89, avec en prenant le risque qu'on ait des propriétaires indélicats qui utilisent le bail civil, quoi.
Le bail civil, il est dans le code civil depuis Napoléon, hein, donc on n'a rien inventé. Le contrat de louage, effectivement.
Le contrat de louage, oui.
Maintenant, moi, ça reste légal, attention, hein, le bail civil, c'est légal. Moi, je le fais pour des clients qui me demandent une résidence secondaire, par exemple. Alors là, pas de problème, on va vous faire un bail civil, résidence secondaire. On précise bien quelle est la résidence principale du locataire. Il précise qu'il a réhabité à titre de résidence secondaire quelques mois par an. Idéalement moins de 8 mois, parce que si c'est plus de 8 mois, ça devient une résidence principale. Vous voyez, donc tout ça, c'est un peu compliqué. Mais il y a beaucoup de propriétaires bailleurs à Paris, notamment pendant la période des JO, qui ont voulu, pour garder de la souplesse, signer des baux civils plutôt que des baux d'habitation traditionnels. Et ça, c'est et en cas de contentieux, le locataire peut demander une requalification au tribunal en disant « Moi, je suis désolé, j'ai besoin d'être protégé, d'avoir un bail loi de 89. »
Incroyable.
Donc ça fonctionne assez bien.
Merci beaucoup, Maître Romain Rossilandi. Je rappelle donc à nos auditeurs qui nous écoutent que si on vous demande une lettre de motivation, c'est illégal et la pratique est bien encadrée.
Sauf que vous aurez beau rappeler au propriétaire les sanctions qu'il risque, a priori, il fera comme s'il n'avait pas vu votre mail
candidats.
Et il trouvera d'autres candidats. Mais c'est quand même lamentable. Bon, écoutez, merci à vous, Maître Rossilandi. Vous tous qui nous écoutez, 0826 300 300, vous vous posez des questions de bon sens comme celle-ci, posez-les sur le répondeur. On y répond avec nos meilleurs spécialistes. Tout de suite, on voyage.
Sud Radio, parlons immo, ça vous concerne.
Il est toujours pressé de voyager, Sylvain Lévy-Valency. Oui, toujours, il nous demande quand est-ce qu'on arrive, quand est-ce qu'on arrive. On arrive.
Je sais où on va. Voilà.
Exactement, mon cher Sylvain.
On va à Montargis et ensuite Périgueux.
Montargis, voilà. La Venise du Gâtinais, quel excellent choix.
Il connaît tout. C'est dingue. Hein. Voilà, il a toujours la phrase qui va bien pour la ville en question.
Et alors, la Venise du Gâtinais, parce que construite sur l'eau, mais il y a autre chose qui est très intéressant aussi, c'est que Montargis est considéré comme le berceau de la révolution chinoise. Est-ce que vous saviez ça, Jean-Marie?
Tout à fait. Vous avez notamment Chou Enlai et deux ou trois dignitaires de la Chine rouge qui ont travaillé juste à côté sur une usine à côté, c'était un fief communiste.
Tout à fait. Et c'est là qu'ils ont été effectivement en contact avec des syndicats ouvriers de l'époque. En Chine, Montargis est considéré comme le berceau de la Chine nouvelle et est la commune française la plus connue après Paris.
Et on y fait les meilleures pralines, sachez-le, de France, de toute la France.
C'est noté. Et des nems aussi ou...
Non.
Bon, juste des pralines. Bon, moi, c'est en tout cas, je vous ai trouvé un appartement assez simple mais efficace. Un appartement de 2 pièces et 69 mètres carrés, très bien situé, proche des commodités, dans une résidence sécurisée. Notre appartement, il est au 4e et dernier étage d'un immeuble construit en 1965. Il comprend un séjour, salle à manger, une cuisine aménagée, une salle de bain et 2 chambres. Il est en très bon état, nous précise l'annonce. Proche des écoles, des commerces et des transports en commun, notre appartement bénéficie aussi d'un balcon, d'une cave et d'une place de parking. Bref, c'est une belle opportunité proposée par Orpi au tarif de 66 000 euros.
Eh bien écoutez, on va le financer avec des taux qui ont baissé.
Oui, alors avec un apport de 20%, j'ai quand même mis 20% à 13 200 euros, un emprunt à 25 ans à 3,48%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 264 euros.
Pourquoi hésiter? Alors on va prendre la direction du Périgord.
Le Périgord, pour ce second bien, est sa ville la plus peuplée. Périgueux, ses truffes évidemment, ses fraises aussi, et son caviar. Pour être précis, on se situe à 15 minutes de Périgueux, à Neuville.
Gastronomie d'abord, parce que notre réalisatrice Marie Faye a toujours faim, donc parlez-lui de truffes, allez-y.
Eh bien Marie, allez à Neuvik, parce que c'est là que sont élevés des esturgeons, où l'on produit un caviar de grande qualité. Et cette fois, c'est une maison de ville que je vous ai trouvée, une maison d'une surface habitable de 173 mètres carrés sur un terrain de 495 mètres carrés. Notre maison, elle est située dans un quartier calme et tout proche des commerces et écoles. Elle dispose d'un double garage, d'un joli jardin à l'arrière. À l'intérieur, trois chambres dans la maison principale, un séjour lumineux et une terrasse plein sud. Et nous avons sur le terrain une maison secondaire de plein pied sur l'extérieur qui offre de nombreuses perspectives avec une cuisine américaine qui donne sur un séjour, une chambre avec dressing et un bureau ainsi qu'une salle de bain. Une maison très sympa, parfaite pour du télétravail ou une vie de famille. Une maison qui est proposée au tarif de 318 500 euros par Century 21 France.
On peut l'emprunter donc sur 25 ans.
Oui.
On a un taux d'intérêt de 3,5%.
Là, je vous ai mis 20% d'apport, soit 63 700 euros et vous avez des mensualités à 1328 euros par mois.
Merci Grégoire.
Mais écoutez, merci à vous tous. En tout cas, on vous retrouve samedi prochain de 9h15 à 10h pour un nouveau rendez-vous sur l'immobilier. D'ici là, rediffusion de l'émission à midi mardi prochain sur
Radio Immo, bien sûr.
On rappelle l'URL.
Alors www.radio-immo.fr ou radio.immo.
Bon, mais parfait. Radio Immo, voilà. Sur Google.
Mais vous savez, Radio Immo, et on a même une application et c'est gratuit.
C'est formidable. Voilà. Bon, écoutez, merci à tous. Je rappelle que cette émission est à retrouver sur sudradio.fr, sur la chaîne YouTube de Sud Radio. D'ici là, laissez-nous vos messages au 0826 300 300. À bientôt.
Merci Jean-Marie.
Sud Radio, parlons immo. Sylvain Lévy-Valency.